Nous lisons dans le livre des Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens, dès aujourd'hui, que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain, où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Deuxième passage dans l'épître, première épître de Corinthiens, au chapitre 2, les versets 6 à 10. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement des temps, en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélé par son Esprit Saint. En effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu.
Nous poursuivons nos lectures dans l'Évangile selon Matthieu, toujours au chapitre 5, et cette fois-ci les versets 17 à 37. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. C'est pourquoi celui qui rejette même le plus petit des commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les applique et qui les enseigne aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les spécialistes des Écritures et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. » Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou sa sœur « imbécile » mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Dépêche-toi de te mettre d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à l'officier de justice et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te détourne de Dieu, arrache-le. Jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps qu'être jeté tout entier dans l'enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu te détournes de Dieu, coupe-la. Jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps qu'aller tout entier en enfer. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une attestation de rupture. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas de débauche, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne faites pas de faux serments, mais accomplissez ce que vous avez promis par serment devant le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Ne jurez ni sur le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni sur la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non, tout simplement. Ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Que voilà un texte bien vigoureux pour aujourd'hui. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes, des spécialistes de la loi ou des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et voilà. C'est une parole de Jésus qui a certainement dû troubler ceux qui l'entendaient. Elle peut même décourager, ce n'est pas la seule parole décourageante, il a douché à froid ses disciples assez souvent. Les scribes, les pharisiens, il faut s'en souvenir toujours, n'étaient pas des croyants tièdes, ni oublieux de leur tradition, ils connaissaient ça sur le bout des doigts, et il faut aussi s'en souvenir, ils partageaient avec Jésus l'immense majorité de leurs convictions. Ils n'étaient pas une école si différente. Ils connaissaient la loi, ils l'enseignaient, ils s'efforçaient de la pratiquer avec sérieux. C'est pas mal déjà. Ils étaient des modèles de fidélité religieuse. Et Jésus semble les prendre de front, mais il est plus subtil que cela. Il se déplace un peu et essaie de les faire se déplacer eux aussi dans ce texte pour regarder ce trésor qu'ils ont en commun autrement. Est-ce qu'il faut comprendre que Jésus critique toute obéissance à la loi ? Non, c'est dit au début du passage, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, ça veut dire parachever, rendre complet, total. Ça peut vouloir dire aussi faire redescendre quelque chose qui n'est que théorique dans nos habitudes et nos manières de faire, une bonne fois, ou au moins de temps en temps. Accomplir, c'est rendre concret quelque chose. On peut toujours dire « ça va, j'ai compris ». Mais qu'est-ce que cette compréhension, sur quoi cette compréhension débouche-t-elle ? Souvent, pas grand-chose. Accomplir, c'est faire. Jésus dit lui-même qu'il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. Ce qu'il met en question, c'est plutôt l'idée qu'on pourrait tranquillement se mettre en règle avec Dieu par une application scrupuleuse d'un règlement et s'en tenir là. Ça peut se faire par la conviction et par la récitation pieuse d'un texte qu'on connaît par cœur, du début à la fin, sans oublier une seule syllabe, hein, mais sans faire suivre quoi que ce soit dans ses actes ou son comportement, une partie au moins de ce que l'on vient de dire. C'est un risque qui ne concerne pas que les pharisiens d'hier, évidemment. Il nous concerne, nous aussi. Et pourtant, nous aimons, et nous avons raison, Nous aimons les cadres clairs et les règles précises. Il faut bien reconnaître que dans de nombreux cas, c'est bien d'en avoir. C'est rassurant de pouvoir dire « je respecte les règles, je fais de mal à personne ». Nous aspirons tous, finalement, à une vie tranquille, ordonnée et, disons, moralement correcte. Voilà. Mais le problème avec cette position, c'est que elle nous place dans la position de quelqu'un qui est arrivé. C'est l'arrivisme dans ce domaine, comme dans bien d'autres, qui rend pénible. Jésus déplace la question. Il ne prend pas les pharisiens de front pour les attaquer. Il essaie de leur faire regarder la même chose sous un autre angle. Il ne parle pas d'abord d'obéissance, parce qu'il aurait pu répondre point par point, nous obéissons à la loi, nous suivons le règlement, etc., et puis enchaîner par des contre-arguments dans le même domaine, le même registre. Il parle d'autre chose. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, etc., etc., il est déjà ailleurs. La justice dont Jésus parle ici touche à ce que nous sommes en profondeur. C'est pour ça qu'il donne cette suite d'exemples où même quand on ne fait rien finalement dedans, le mal est déjà fait d'une certaine manière. On peut respecter les règles extérieurement, mais intérieurement rester bouillonnant dans sa petite colère, son mépris, sa jalousie et tout le reste. Jésus le dit avec force, hein, celui qui se met en colère contre son frère est déjà engagé sur un chemin de rupture, c'est déjà fait finalement. Celui qui réduit l'autre à un objet a déjà franchi une limite, même s'il n'est pas encore passé à l'acte. Celui qui manipule la parole trahit la vérité, même sans mentir formellement. Finalement, on peut être menteur, mentir effrontément, sans desserrer les dents. C'est dur. S'il fallait remplacer ce règlement-là par l'ancien, on serait peut-être tenté de préférer l'ancien, finalement, qui était un peu plus souple. Jésus n'ajoute pas de la souplesse ici. Il va même jusqu'à des images excessives, hein, arracher son œil, couper sa main, etc. Heureusement, alors que ça n'est plus dans nos règlements, les paroles choc, elles représentent presque une sorte de démonstration par l'absurde, jusqu'au bout, cette logique qui voudrait extirper le mal par des mesures radicales, ce qu'on est parfois tenté de faire, mais on sait aussi que ça ne marche pas. On peut bien s'arracher tout ce qu'on veut, ça ne nous rendra pas meilleurs. Nous ne pouvons compter ni sur l'application du résultat, de la bonne application d'un règlement, ça ne suffit pas. Et s'amputer soi-même par souci de pureté, comme si on était atteint de gangrène, hein, pour garder sain le reste, au moins, et sauvegarder le reste, ça ne marche pas non plus. Le problème, ce n'est pas seulement dans les actes visibles, c'est dans le dedans, dans le désir. Et nous n'en sommes pas totalement maîtres, nous le savons très bien. Nous savons tous qu'on ne choisit pas toujours ce qu'on ressent, les colères, les attirances, les jalousies surgissent malgré nous. C'est pour ça que ça ne sert à rien de s'amputer, de se couper quelque chose, parce qu'elles reviennent. Les colères, les attirances, les jalousies surgissent malgré nous. Nous pouvons peut-être apprendre à les maîtriser, mais pas à leur donner, pas décider de leur existence. Ça, elles ne nous demandent pas notre avis. Alors, autre solution, peut-être, on pourrait étouffer tout ça sous une chape de plomb, vous savez, un petit peu comme le sarcophage de Tchernobyl. C'est de la matière inflammable, on va mettre quelque chose au-dessus, là, puis rien ne sortira, et on sera tranquille. Pendant combien de temps, on ne sait pas. Mais si on mure les choses comme ça, on arrivera peut-être à les maîtriser. On sait bien que ça n'est pas le cas non plus. Surtout qu'à force de s'éteindre soi-même, d'éteindre ou de vouloir écarter tout ce qui nous traverse, on risque aussi de s'éteindre soi-même. C'est parfois ce qui nous arrive. Pour arriver à quoi ? Une existence sans élan, sans passion, étroite, froide. Il y a aussi l'autre possibilité qui est à l'inverse, de céder à tout, mais qui conduit aussi à une impasse. Notre époque valorise beaucoup d'ailleurs l'expression de soi, la réalisation personnelle comme une richesse. Il y a un film en ce moment que je vous recommande sans l'avoir encore vu, je le verrai tout à l'heure, donc je ne peux pas vous en parler, et qui s'appelle « Gourou » avec Pierre Niney. Ça sort en ce moment, mais c'est tout le... Apparemment, je m'en tiens au synopsis, hein, je ne l'ai pas vu, mais ça met en avant tout ce à quoi mène cette vie où on flatte l'expression sans fin du dedans, comme une richesse, mais qui n'arrive jamais à créer du lien, faire ciment avec les autres, puisqu'on ne pense qu'à soi. Nous voyons combien la poursuite effrénée de nos projets, nos réussites, notre image peuvent devenir finalement un tyran devant lequel on se met à genoux aussi. Nous ne sommes plus libres quand nous sommes comme ça. On peut se brûler en voulant tout vivre, tout expérimenter, tout réussir. Jésus ici, c'est ça le déplacement qu'il essaie de faire avec les pharisiens qui sont enfermés dans une certaine extrémité de ce qu'il est possible de faire. Vous avez devant vous, comme dans le Deutéronome, la mort et la vie, hein, une ellipse comme ça avec deux extrêmes, la mort et la vie. Vous, pharisiens, scribes, avec vos règlements, vous êtes enfermés dans un autre dilemme entre deux extrêmes, entre l'étouffement et la démesure. C'est pareil. Où est le chemin? Quelque part entre les deux, ça s'appelle la liberté, c'est de ça que je veux vous parler. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Pas de débarras définitif de l'héritage, il restera à sa place, il faudra le valoriser, le lire, il est là pour quelque chose, il nous servira encore longtemps, mais il va falloir le lire pour vivre libre avec cette loi. Si Jésus ne propose pas l'abolition de la loi ni son absolutisation, c'est parce qu'il sait qu'il faut viser au milieu. C'est par fidélité à l'héritage, justement, qu'il le fait. Dans la Bible, la loi est donnée à un peuple et il faut se souvenir dans quelles circonstances elle leur est donnée. Elle est donnée tout de suite après une libération hors d'Égypte. C'est parce qu'on est sorti de l'esclavage qu'on peut recevoir un cadre qui va protéger cette liberté nouvelle. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Ce n'est pas comme ça que les pharisiens, qui connaissent pourtant cet épisode par cœur, la vivent nécessairement au jour le jour. La loi ne crée pas la liberté, mais elle la protège comme un écrin. Elle est là pour ça. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Jésus rappelle quelques éléments de cette loi. Il ne les cite pas les 10 du sommaire de la loi, mais il aurait pu continuer encore longtemps. Ces paroles-là n'ont jamais fabriqué et ne fabriqueront jamais des êtres parfaits. En revanche, elles ont depuis longtemps empêché que le désir qui est le nôtre ne détruise la vie de quelqu'un d'autre. Elles nous ont longtemps et nous préserveront encore un espace commun possible avec d'autres parce que ces limites nous sont placées. La loi me dit « ton prochain n'est pas un moyen pour toi ». Un outil dont tu peux te servir pour ta réussite. Son bien n'est pas à ta disposition. Sa vie, sa dignité sont aussi précieuses que les tiennes, donc tu ne dois pas les atteindre, etc. C'est cela qui nous est répété. La loi, en ce sens, est bonne parce qu'elle nous protège les uns des autres. Elle empêche de devenir chacun de notre côté une idole de nous-mêmes. Et puis elle nous empêche d'écrabouiller les autres. Elle garde chacun d'entre nous aussi de croire que tout nous est dû. C'est beaucoup. Mais elle ne fait pas tout. Elle a aussi ses limites. Elle dessine un espace de coexistence. Hein, ne touche pas au bien de ton prochain, par exemple. C'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Si la justice s'arrêtait là, elle éviterait le pire, mais sans forcément nous déplacer ou nous amener, nous conduire vers le meilleur qui nous attend. Elle empêcherait la violence, mais sans créer de communion. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs à notre société. Il n'y a pas besoin de faire plusieurs heures d'avion pour aller voir comment vivent les autres. Il faut commencer peut-être par chez nous. On parle, vous savez, de polarisation. Ça, c'est un des mots de jargon que vous retrouverez dans beaucoup d'articles. Mais il dit bien ce qui nous arrive aussi fréquemment. Que chacun se replie sur des frontières plus petites parce qu'il n'a plus confiance dans celles qui étaient plus grandes. Alors on s'en reconstruit d'autres et on finit tout seul. ou en petites tribus. C'est pour ça que Jésus a compris qu'il fallait aller plus loin que l'obéissance d'un règlement, à un règlement. Pas seulement par des paroles exigeantes, mais aussi par sa vie, jusqu'au bout d'ailleurs, par sa mort aussi parfois. On peut être un témoin. Jésus ne cherche pas à prouver qu'il a parfaitement respecté la loi, il ne cherchera jamais à prouver cela. Mais il va continuellement manifester une justice d'un autre ordre, une justice qui se donne, une justice qui ne se contente pas d'éviter le mal ou de faire ce qu'il faut, de respecter le protocole, mais qui prend sur elle le mal pour le remplacer par autre chose. C'est une autre affaire. Sur la croix non plus, Dieu ne se contente pas de poser des limites. Il franchit une distance. Il se donne pour nous, c'est-à-dire pour les autres, pour tous. Ce qui est fait à cet endroit-là et à ce moment-là est constamment accessible pour que nous devenions également nous-mêmes, nous soyons nous-mêmes dans le don. La résurrection vient dire cette manière d'être juste en se donnant. Et c'est ça la véritable victoire ressuscitée, c'est ça, c'est passer à une autre justice. Voilà ce qui dépasse la justice des scribes et des pharisiens, pas une performance morale supérieure, parce que si Jésus avait répondu point par point dans l'argumentation, il n'aurait pas eu d'autre choix que de proposer, face à une morale supérieure, encore plus exigeante, encore plus casse-pied, encore plus insupportable, qui nous laisse encore plus frustrés devant l'impossibilité de l'accomplir, etc., etc. C'est justement ce qu'il n'a pas fait. Nous passons beaucoup de temps à nous justifier, à prouver que nous sommes du bon côté, nous y tenons. Notre société est traversée de débats assez vifs et elle est elle-même polarisée. C'est difficile d'obtenir de l'engagement, de la fidélité, c'est difficile aussi d'obtenir qu'une partie de la population dise qu'elle a pleine et entière confiance dans une autre partie de la population, pas que dans sa classe politique, la presse ou autre chose, ou ceux qui ont un pouvoir. C'est la capacité à faire confiance qui est atteinte gravement. Chacun défend son camp, son identité, ses convictions. C'est bien d'avoir un camp et de tenir sa position parce qu'on pense qu'elle vaut mieux que d'autres. C'est bien d'avoir une identité, de savoir d'où on vient, c'est bien d'avoir des convictions, mais quand ça devient un territoire étriqué où on se replie, ça ne joue plus ce rôle d'élan vers les autres. On s'y enferme, on a déjà perdu. La justice dont Jésus parle ici ne fonctionne pas d'abord comme un classement ou comme une position de repli. Elle ouvre un espace où chacun est reconnu comme destinataire d'une grâce. C'est comme sortir d'Égypte. Hein. Une fois qu'on est libre, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est ça, c'est cette question-là qui devrait nous animer. Ça ne supprime pas les exigences de la loi. Le peuple d'Israël fraîchement sorti d'Égypte a dû vivre avec elle comme un cadre. Elle a parfois servi uniquement sous l'aspect de la sanction. Elle est là, elle est bien là, avec toute sa rigueur. Mais Jésus parle, lui, de liberté, de réconciliation, de fidélité, de vérité dans la parole, d'authenticité, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste, c'est une cohérence intérieure qui est bien plus compliquée à obtenir que l'obéissance à un règlement. Cette cohérence ne naît pas de la peur d'être condamné. Rien ne peut naître de la peur d'être attendu par un jugement. Rien de bon, en tout cas. Cette confiance-là naît de la certitude d'être aimé et accompagné avant toute chose. C'est ce que le peuple comprend quand il se sent libre de l'autre côté de la mer. Cette dimension concrète, notre Église la connaît à travers tout ce qu'elle fait. C'est ce que nous essayons de faire, d'être dans le don parce qu'on nous a nous-mêmes beaucoup donné. Il y a d'un côté cette distinction que reprenait Paul Ricoeur, celles et ceux de notre communauté dont nous partageons la vie. Et nous devons être dans le don par rapport à eux, parce que c'est la seule manière de vivre pour faire peuple, pour faire communauté. Prendre soin d'eux, ça devrait être une exigence, une évidence fraternelle. Alors il y a la communauté, mais il y a aussi le prochain, qui tout seul s'avance avec ses questions, ses besoins, qui surgit sans prévenir. Il est inattendu, il est dérangeant, il nous casse les pieds avec ses questions et il nous embarrasse avec ses besoins. Mais c'est lui qui se présente à nous. C'est lui qui vient nous chercher. Il ne partage peut-être ni notre foi, ni nos repères, ni notre manière de faire. Ses besoins à lui nous déplacent. Et déjà, nous regardons ce que nous avons à faire, notre mission, sous un autre angle, grâce à lui. La grâce, c'est lui. La justice dont parle Jésus ici ne nous autorise pas à choisir entre les deux. Elle nous permet non pas d'hiérarchiser les choses selon leur proximité ou leur utilité. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Elle nous place sur les deux fronts à la fois. C'est ça la difficulté. Pour nous tous, ça peut sembler assez immense comme chantier. Avoir beaucoup de choses à faire d'un côté et découvrir qu'il y a à peu près autant à faire de l'autre, ça pourrait être décourageant, bien sûr, mais nous savons nos limites. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les détresses ni résoudre toutes les injustices. Et alors, la justice de Dieu ne demande pas d'être des sauveurs. Ça n'est demandé à personne. Le peuple qui est sauvé de l'autre côté de la mer ne doit pas devenir un peuple sauveur à son tour. Il est sauvé, c'est tout. La justice nouvelle nous demande d'être disponible là où nous sommes. C'est quand même autre chose. Ce n'est pas moins de travail, peut-être. Ce n'est pas la même charge mentale ni la même frustration qui nous attend au bout du compte. Nous ne serons jamais des sauveurs, mais nous pouvons donner beaucoup. Dans nos familles, dans nos engagements, dans nos choix quotidiens. Dépasser la justice des scribes et des pharisiens, c'est comprendre cela. Ce n'est pas essayer de faire plus ou mieux. C'est vivre autrement les mêmes exigences. Ne pas les oublier comme on n'oublie pas une règle ou une loi. Mais avoir l'intelligence, la finesse de la vivre autrement avec ce qui se présente à nous. Renoncer à l'illusion d'une petite vie bien réglée qui serait la salle d'attente du royaume, c'est comprendre que Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes en règle avec lui, nous ne le serons jamais, mais pour nous rendre capables d'aimer à notre tour, et ça nous savons le faire. La loi n'est pas une échelle vers le ciel, elle est un cadre pour que la liberté circule, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. La vraie justice commence quand, à l'intérieur de ce cadre, nous choisissons librement d'être pour les autres. Alors évidemment, cette parole de Jésus est assez exigeante. Il n'a pas remplacé un rapport à la loi difficile, exigeant, par quelque chose de plus facile. C'est toujours exigeant. Et en plus, ça met à nu nos petites colères intérieures, nos contradictions, nos failles, et personne n'aime regarder cela en face. Mais cette loi ne nous écrase pas, parce qu'elle nous ouvre une porte, un chemin, et elle nous dit qu'il est possible de parcourir ce chemin, là où tous les autres règlements nous auraient enfermés. Un chemin où nous ne cherchons plus à être irréprochables, mais à être vrais. Un chemin où on peut devenir soi-même, pas en suivant la mode du développement personnel, où on nous vante tant... Qu'on peut être vrai et authentique sans compter sur les autres, en l'étant tout seul dans son coin. C'est cela, que votre oui soit oui et que votre non soit non, cette authenticité-là. Un chemin où notre oui peut devenir oui parce qu'il est enraciné dans la confiance, pas dans la méfiance vis-à-vis des autres. Un chemin où la justice ne se réduit pas à éviter le mal, mais s'épanouit dans le don. À chaque fois qu'on arrive à passer dans ce chemin qui s'ouvre, on est dans quelque chose de supérieur, sans avoir fait plus. Et bien, il faut que cette justice-là, reçue du Christ, devienne petit à petit la nôtre, pas pour franchir une porte après un contrôle, ou pas comme dans ces jeux, vous savez, où vous ne pouvez accéder au niveau 3, que vous avez tout fait parfaitement au niveau 2, mais parce que déjà le royaume est ouvert, nous sommes déjà dedans. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'y suis ? Pas qu'est-ce que je peux faire pour mériter qu'on m'ouvre la porte ? À chaque fois qu'un être humain choisit de vivre pour les autres, il ressuscite, il est dans le royaume, et nous aussi. Amen.